Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes.
RFI.
Tout à l'heure, j'aurai au téléphone un maître de conférences en sciences de l'information et de la communication qui nous expliquera notamment comment les attentats du 11 septembre ont été à l'origine de la création de Google News. Mais d'abord, j'aimerais vous parler d'un podcast de RFI mis en ligne il y a quelques semaines. Son nom, c'est Onde de choc. Sa première saison a pour titre « Après l'attentat ». Elle se penche sur le parcours de reconstruction des victimes du terrorisme dans le monde. Ce podcast a été diffusé en amont de l'ouverture à Paris du procès des attentats du 13 novembre 2015. Pour vous présenter Onde de choc, j'accueille Bruno Faure. Salut Bruno.
Salut Steven, bonjour à tous.
Tu es chef adjoint du service économie de RFI et tu es l'auteur de ce podcast. J'aimerais d'abord que tu commences par nous expliquer la genèse de cette proposition.
Alors ça date, on va dire, du début de cette année 2021. Les journalistes ont réfléchi toujours quelques mois à l'avance. On a vu arriver ce procès qualifié d'historique, procès des attentats du 13 novembre 2015 avec une énorme portée symbolique. On a tous vécu, nous ici à Paris, très fort cette soirée du vendredi 13 novembre. J'imagine aussi pas mal de gens dans le monde, mais on avait envie de se préparer à ce procès majeur avec ces événements extrêmement marquants, mais on s'est dit que à RFI, il fallait trouver une façon de l'aborder de façon internationale, de ne pas être concentré que sur notre cas français. C'est ce qui nous est reproché parfois quand il y a des attentats ailleurs dans le monde. Donc on avait envie de trouver une autre façon d'aborder ce procès et on s'est dit qu'il y avait un point commun entre les attentats à New York, à Bamako, à Ouagadougou, à Madrid, à Bombay ou à Bali. Un point commun, c'est finalement la douleur des victimes, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles aient été sur les lieux de l'attentat ou un peu éloignées parmi les proches. Cette douleur des victimes, il y a des points communs où qu'on soit dans le monde. Et c'est pour ça donc qu'on a décidé de travailler comme ça.
Et voir aussi ce qu'apporte pour les victimes un procès comme celui qui vient de s'ouvrir à Paris. Écoutons un extrait d'Onde de choc. C'est un avocat, Maître Mamari Diarra. Il est avocat au barreau de Bamako, au Mali. Il défendait des parties civiles au procès des attentats de Bamako en 2015.
Face au terrorisme, il y a l'incompréhension. Malgré les explications données par les auteurs, on ne comprend vraiment pas. On ne comprend pas. Surtout, ce genre de terrorisme est lié à une religion dans un pays où il y a pratiquement au moins 90% de la population qui est musulmane. Donc, l'intérêt principal de ce procès, genre de procès pour terrorisme, c'est que ça permet à beaucoup d'autres personnes de comprendre. De savoir d'une part, qu'il n'y aura pas d'impunité et que chaque fois qu'on pose ce genre d'actes, on peut être condamné à une lourde peine. De l'autre côté, ça permet aussi aux autorités de bien comprendre les mécanismes et à la population aussi de mieux comprendre. Pour les victimes, ça prouve d'abord que l'État est là, que l'État, malgré les moyens, le peu de moyens dont disposent nos États, l'État fait tout pour défendre la population, pour suivre et de juger ceux qui commettent ce genre de crimes. Et donc ça, c'est déjà un soulagement pour les victimes et même la population d'une manière générale.
Maître Mamari Diarra, avocat de partie civile au procès des attentats de Bamako en 2015 dans le podcast Onde de choc, donc que tu as écrit, Bruno, peux-tu nous expliquer également l'impact que le travail autour de ce podcast a eu sur ton approche du métier de journaliste radio?
Alors effectivement, pour moi, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, où on est concentré sur l'actualité du monde au quotidien, on voit arriver les informations au jour le jour. Et une grande partie de notre travail, c'est de prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire de nous dire, bon, ok, il y a un attentat, c'est gravissime pour les gens qui l'ont vécu, mais bon, voilà. Moi, je suis observateur, je suis journaliste. Pour ce sujet-là, c'est forcément un peu différent. D'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a vécu, nous, Français, de façon extrêmement forte, cette soirée du 13 novembre. Et y compris dans la façon de travailler sur ce podcast, où j'ai dû travailler pendant plusieurs mois dessus, on a beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup discuté avec les chercheurs que j'ai interviewés, le groupe de chercheurs autour d'Antoine Mégy, des heures de discussion d'abord, avant de les enregistrer, on a retravaillé ensuite, après l'interview avec eux, pour savoir ce qu'il fallait l'avait gardé, on a beaucoup travaillé le texte. Voilà, ça a été un travail au long cours et donc extrêmement prenant intellectuellement pour moi. Et ça, j'y étais vraiment pas habitué. Finalement, voilà, ma posture de recul qu'on me demande au quotidien dans mon travail de journaliste, bah, j'ai dû un peu l'oublier dans ce cas-là.
Réfléchir aussi au séquençage de l'information, j'ai envie de dire, penser par épisode, puisque ce podcast a 6 épisodes, réfléchir aux personnages que tu allais solliciter pour ça, et voir comment mettre tous ces personnages en rapport les uns avec les autres pour créer un lien et faire qu'on raconte une histoire à l'oreille des gens.
Et heureusement, je n'étais pas tout seul, parce qu'on a travaillé en équipe, avec toi Steven, avec Simon de Creuse, avec Laurie Plisson aussi, la réalisatrice.
Et Sinatou Saka.
Et les autres journalistes aussi de la rédaction de RFI qui ont participé à ce podcast. C'est le cas de Nicolas Falaise, de Frédéric Gara qui était en Afrique au moment d'attentats à Ouagadougou ou à Abidjan. Voilà, ça a été un vrai travail collectif et moi, de point de vue personnel, j'ai appris pas mal de choses sur comment on réfléchit à l'indemnisation des victimes du terrorisme, comment elles se préparent à un procès, comment elles interviennent dans ce procès, ce qu'elles en gardent, les sentiments qu'elles peuvent exprimer ou ne pas exprimer, d'ailleurs, au cours d'un procès. Voilà, ça a été vraiment très riche, en tout cas pour moi.
Merci Bruno. Onde de choc, je le rappelle, est un podcast en 6 épisodes que tu as écrit et qui est réalisé par Laurie Plisson, un podcast qui est dédié à toutes les victimes du terrorisme à travers le monde. Je ne l'ai pas dit en introduction, Bruno, mais tu es aussi depuis quelques semaines le présentateur de l'émission du service économie de RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs. C'est chaque samedi en podcast et sur RFI. Merci Bruno, à bientôt.
À bientôt.
Encore un mot pour vous dire que je recevrai la semaine prochaine Jean-Paul Marthoz, un journaliste qui dirige le module Médias et terrorisme à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, pour discuter notamment de la couverture de ce procès des attentats du 13 novembre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Atelier des médias sur RFI et sachez qu'un événement terroriste a eu un impact sur la diffusion de l'information en ligne. C'est le 11 septembre 2001. C'est ce qu'explique Nikos Smirnaios, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, dans un article publié récemment sur le site La Revue des médias de l'INA. Nikos Smirnaios est avec moi par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre article, vous expliquez que le 11 septembre, lorsque se déroulent ces attaques à New York, le monde entier se rue sur l'information. Alors, il y a évidemment beaucoup de gens qui sont devant leur télévision. Des chiffres ont estimé à 2 milliards de personnes à travers le monde qui se sont mis devant leur télévision le 11 septembre pour regarder cet événement, mais également en ligne avec des sites internet d'information qui font des scores incroyables d'audience du jamais vu à l'époque.
Oui, il faut situer un petit peu dans le contexte de l'époque et se rappeler qu'en 2001, il y a finalement peu de gens qui utilisent Internet. On estime à l'époque à 20% de la population aux États-Unis et moins en France. Donc c'est un média qui est peu diffusé par rapport à aujourd'hui. Pourtant, cet événement va constituer effectivement un précédent puisque ce jour-là, des millions de gens vont se précipiter sur les sites d'information à tel point que nombre d'entre eux, notamment en Europe et particulièrement en France, vont tomber en panne puisque les serveurs ne sont pas conçus pour une telle consultation soudaine et massive. Par ailleurs, les sites américains qui sont déjà rodés, on va dire à l'époque, vont voir des multiplications de leur audience de l'ordre de 600-700%. Et donc ça va être un événement marquant à la fois du point de vue des usages, c'est-à-dire des gens qui utilisent des sites pour s'informer avec des façons particulières, on va dire, ou plus développées, et également d'un point de vue tout simplement technique et économique, puisque les éditeurs de sites, notamment en France, vont se rendre compte qu'il faut prévoir des infrastructures nécessaires et une organisation de travail pour répondre à ce type de demandes.
Alors justement, intéressons-nous à ces deux côtés-là. Tout d'abord, au niveau des usages, eh bien, les internautes se sont mis, presque pour certains, à partir de cet événement, à regarder des vidéos et écouter du son sur Internet.
Oui, d'abord, la première remarque qu'on peut faire, qui va nous permettre aussi de discuter du sujet des infomédias plus tard, c'est aussi la demande soudaine. C'est-à-dire qu'on a en fait une consommation qui est très réactive. Dès que l'événement se passe, les gens se précipitent sur les sites d'information, mais aussi sur les moteurs de recherche pour chercher de l'information, pour savoir ce qui se passe.
Y compris quand ils sont d'ailleurs sur leur lieu de travail. Ça aussi, c'est important. On ne regarde pas seulement les informations le soir en rentrant à son domicile, mais également sur son lieu de travail le 11 septembre.
Exactement. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'événement s'est passé dans la matinée, dans l'heure américaine. Et donc, la plupart des gens, en fait, ils étaient dans leur lieu de travail. Et donc, évidemment, quand vous êtes dans un bureau, c'est très difficile d'allumer la télévision. Donc, c'est la raison pour laquelle une consultation massive et très soudaine est arrivée, effectivement, depuis les bureaux, notamment les bureaux de New York, mais aussi de partout aux États-Unis. Donc, ça, c'est le premier élément. Hein. Disons la question du temps réel, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va avoir tendance à attendre des sites d'information qui réagissent dans la minute, voire dans la seconde, aux événements, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Hein. On avait des articles qui étaient mis en ligne, mais qui étaient des articles statiques, hein, on va dire. Et puis, à d'autres dimensions, comme vous le dites, comme il s'agit d'un événement très spectaculaire, il y a une demande pour de l'image, il y a une demande pour de la vidéo, et donc c'est une des premières occasions où des vidéos vont faire des grands chiffres de consultation. Et puis, petit à petit, on va voir également, alors là, ça va pas être sur l'événement, mais ça va arriver plus tard, la recherche d'une information alternative, pour le meilleur et pour le pire, si vous voulez, puisqu'on va observer qu'un certain nombre de groupes sociaux, que ce soit les jeunes, mais aussi des minorités, vont chercher sur Internet une information qui se différencie de l'information, disons, mainstream, qui est celle qui est diffusée par les médias traditionnels, notamment de la télévision, et qui ne les satisfait pas.
Vous dites, par exemple, dans votre article, que les internautes de religion musulmane se sont alors mis à chercher de l'information différemment sur Internet parce qu'ils se sentaient stigmatisés dans les médias dits traditionnels.
Tout à fait. Donc ça, c'est une étude qui nous vient de la Grande-Bretagne, hein, puisque évidemment, en France, on n'a pas le droit de faire ce genre d'études. Mais en Grande-Bretagne, c'est tout à fait possible de demander aux gens de leur religion. Et effectivement, on a constaté dans les mois qui ont suivi le recours massif de musulmans à Internet. Puisque, en fait, les traitements, bon, évidemment, étant donné les événements, vous imaginez que la question de l'islam, on va dire, ou de l'islam radical était beaucoup dans l'actualité. Il y a eu beaucoup de dérapages aussi, notamment dans les médias mainstream. Et donc, les musulmans qui se sont sentis stigmatisés, ils sont allés chercher une information alternative, différente, moins stéréotypée, on va dire, sur Internet. Mais ils ont été suivis aussi par d'autres groupes, des groupes qui, en gros, n'adhéraient pas, disons, au récit dominant. Alors ça pourrait être des groupes d'opposition, par exemple de gauche, qui avaient qui étaient opposés à l'administration de George Bush, hein, qui était quand même un président très controversé. Mais par la suite, ça a été aussi le point de départ d'un certain nombre de théories de complot, notamment qu'on a connues en France, hein, avec la présence à la télévision de Thierry Messon, etc., de la négation, on va dire, de la réalité de ces attaques, ou en tout cas de la version officielle, qui ont pu se développer également en ligne avec ce site très connu, Reopen 9-11, qui a eu un énorme succès dans les mois qui ont suivi les attentats.
Alors, je le disais en introduction, le 11 septembre a également eu un impact majeur sur le géant de Mountain View, Google, et notamment, c'est à ce moment-là qu'un ingénieur de chez Google, nommé Krishna Bharat, s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. En fait, lui, il était devant son ordinateur, vous l'expliquez dans votre article, il souhaitait suivre toutes les informations relatives aux attentats du World Trade Center. Or, le moteur de recherche Google, à l'époque, n'est pas adapté à l'actualité. Et vous le dites très bien, si l'on tape World Trade Center dans Google le 11 septembre, eh bien, dans la première page de résultats de recherche, on ne trouve rien en matière d'actualité. On n'a que des pages qui montrent un petit peu ce qu'est le World Trade Center sans en savoir plus.
Tout à fait. Il faut se rappeler que Google, dans sa forme Google, on va dire, a été lancé en 1998. Donc en septembre 2001, le moteur de recherche n'a que 3 ans. Ce n'est pas forcément les moteurs les plus consultés à ce moment-là. Hein. Il y a d'autres moteurs qui marcheraient bien. Il y a AltaVista à l'époque pour les plus anciens. Il y a Yahoo, etc. Mais bon, c'est quand même le moteur qui monte en puissance. À l'époque, Google n'a quasiment pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des liens sponsorisés qui vont arriver en 2002. C'est une sorte de prototype. Hein. Mais du coup, qui n'est pas adapté à ce moment-là à justement des questions d'actualité. Donc, si vous regardez la page d'accueil de Google le jour des attentats, c'est assez marrant parce qu'en fait, il a fallu à la main ajouter 2 liens sur la page d'accueil de Google vers des sites d'information, puisque, effectivement, comme vous le dites, les résultats de la recherche ne donnaient aucune information d'actualité, puisque l'algorithme PageRank de l'époque, qui était fondé sur le nombre sur le nombre des liens entrants, évidemment, quand vous avez un événement qui se passe tout de suite, le nombre des liens entrants vers les sites d'information, il est faible au début. Donc, dans les résultats, il n'y avait pas grand-chose. Donc, les ingénieurs de Google, pour répondre quand même à cette demande, ils étaient obligés de créer des liens à la main, hein, de manière tout à fait artisanale vers le New York Times sur la page d'accueil. Et donc oui, l'anecdote, c'est là, hein, Krishna Bharat qui est ingénieur donc au sein de Google, qui est un peu obsédé par cette question, comme beaucoup de gens, hein, qui veut suivre l'actualité en temps réel, se rendre compte qu'il n'y a pas d'outil pour le faire. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait vrai. Pour être tout à fait honnête, il existait des outils de ce type, c'est-à-dire des outils. En gros, l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir une machine qui va régulièrement visiter des sites d'information, d'actualité, recenser les articles qui sont publiés et les classer dans différentes thématiques. En gros, pour résumer un petit peu, c'est le principe général. Donc à ce moment-là, il existe des outils comme ça. D'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est un peu un scoop pour votre émission, qu'à cette époque-là, il existe un service français qui fonctionne très bien, qui a des clients, qui s'appelle Net2One, qui est créé par M. Jérémy Bérébi, qui est toujours, je pense, il me semble, un investisseur assez connu de l'Internet, notamment français.
Effectivement.
Qui est un service de ce type, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on peut s'inscrire sur sur une forme de newsletter, donc on s'inscrit dans cette newsletter, et on reçoit une sélection des liens automatiquement générés à partir de mots-clés qui ont été faits avec la même méthode.
Mais là, on parle de quelque chose qui est assez confidentiel et Google décide et veut apporter l'information au plus grand nombre et il décide à ce moment-là de créer donc Google Actualité, mais en utilisant évidemment la puissance de leurs algorithmes qu'ils sont en train de développer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un péché originel déjà de Google à cette époque-là d'avoir décidé de confier Google Actualité et Google News à des algorithmes?
Un péché originel, non, je dirais pas. C'est tout à fait dans la nature, si vous voulez, de cette entreprise. C'est-à-dire que la manière dont Google envisage et tous les acteurs de la Silicon Valley à l'époque envisagent tous ces problèmes, c'est sous l'angle de l'efficacité. C'est-à-dire que quand Krishna Bharat est face à un problème, donc il est face à ce problème, il veut savoir ce qui se passe, il va être informé régulièrement sur le sujet, eh bien il va mettre en place un dispositif technique pour résoudre ce problème, sans prendre en compte du tout toutes les dimensions, si vous voulez, sociales, économiques, éditoriales, qui font la complexité justement des champs sociaux comme celui du journalisme. Donc l'efficacité veut que on crée une machine qui répond à la demande, et c'est ce que Krishna Bharat va faire. Ses collègues vont reprendre ça, donc ça va circuler à l'intérieur de Google, et puis ça va paraître une très bonne idée à Sergey Brin et Larry Page. Les cofondateurs de Google, qui vont décider un an après, donc en 2002, de créer un prototype grand public et qui vont mettre en ligne sous l'adresse news.google.com. Sauf que, évidemment, en faisant cela, eh bien, ils vont empiéter, et c'est le début d'une longue histoire de laquelle on n'est toujours pas sorti, et je pense pas qu'on sortira, qui est celle du rapport entre l'industrie de l'Internet et l'industrie des médias, qui est une histoire très complexe, très conflictuelle, qui est faite à la fois de coopération, mais aussi de concurrence, de compétition, des conflits juridiques, dans lesquels on est toujours. Puisque d'un côté, vous avez donc une logique qui est basée sur l'efficacité, résoudre un problème technique sans se poser beaucoup de questions. Et de l'autre, vous avez tout un tas de logiques sociales complexes d'échanges journalistiques qui renvoient à la fois au modèle économique du journalisme, aux droits d'auteur et droits voisins, mais aussi également à des logiques sociales qui définissent en fait ce qui est digne à être mis en avant dans l'échange journalistique. Comment on traduit ça en logique algorithmique?
Alors, je vous propose d'écouter une archive, puisque ces questions-là, vous y travaillez depuis longtemps. Et vous étiez déjà l'invité de l'Atelier des médias en avril 2008. C'est Philippe Couve qui vous posait les questions et vous parliez des infomédiaires.
C'est un problème qui a été soulevé même par Pierre Bourdieu il y a longtemps. Hein. C'est la fameuse circulation circulaire de l'information. C'est-à-dire que effectivement, si vous voulez apparaître bien dans les résultats de Google News, bah, il faut parler des sujets les plus importants. C'est pour ça que Google essaye, subissant aussi la pression d'un certain nombre d'éditeurs, de faire en sorte à donner ce qu'ils appellent une prime à l'originalité, c'est-à-dire à mettre en avant en fait la première source qui a révélé une information et pas les autres qui l'ont repris derrière.
Nikos Mirnaios, certains reprochent souvent aux médias de tous faire la même chose sur Internet, de faire ce qui marche, ce qui fait du trafic. Cette prime à l'originalité est-elle encore d'actualité sur Google?
Alors, c'est une question très complexe. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce phénomène que j'ai décrit tout à l'heure, il y a 13 ans,
ça ne rajeunit
pas, c'est un phénomène classique. Les sociologues du journalisme et des médias ont mis en avant déjà dans les années 70, ça s'appelle l'effet d'agenda. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un système concurrentiel, les médias ont tendance à parler des mêmes sujets au même moment et avec les mêmes mots. Parce que voilà, quand il y a un événement qui se passe ou quand il y a des événements qui se passent, ils se sentent obligés d'en parler quand la concurrence en parle. Donc ça crée comme ça des nœuds ou des moments, si vous voulez, où tous les médias parlent de la même chose. Et ça peut donner l'impression d'une sorte d'unanimisme autour de ce type de questions. Donc ça, c'est une logique, si vous voulez, qui préexiste Google. Le problème, c'est que quand Google lance ses services, évidemment, il n'y a pas véritablement d'enjeu économique. En 2002, le marché il est quand même relativement petit. Google n'a pas de modèle économique. C'est absolument pas encore les géants qu'on connaît aujourd'hui. Mais petit à petit, il va commencer à concentrer de l'audience. Donc, selon les chiffres que j'avais pu collecter à l'époque, déjà en 2008, ça représentait plusieurs millions de visiteurs uniques par jour qu'il distribue du coup aux éditeurs. Puisque, en fait, le principe, on l'a pas dit, mais le principe de Google News, c'est de pas héberger du contenu. C'est de rassembler des liens, des petites vignettes, et puis on clique et on arrive sur le site de l'éditeur. Donc, quand vous êtes présent dans Google News, et d'ailleurs Google News a été par la suite intégré dans les résultats génériques, donc en fait dans la première page de Google, c'est une énorme source d'audience. À partir de là, ça devient à la fois un enjeu économique, à savoir qui va avoir cette audience et dans quelles conditions, et puis évidemment un enjeu politique, puisqu'il s'agit en gros de hiérarchiser l'actualité, donc d'hiérarchiser les événements sociaux, politiques, etc., etc. Et c'est là où les choses se compliquent. D'ailleurs, la France, en fait, c'est très intéressant parce que la France a constitué une sorte de laboratoire. Moi, à l'époque, parce qu'il se trouve que je faisais ma thèse quand tout ça s'est passé, c'est pour ça que j'ai observé bien dès 2002, quand le service a été lancé aux États-Unis, les éditeurs américains, états-uniens, ils n'ont pas bougé, en fait, du tout. Alors que quand ça s'est passé en France, tout de suite, les représentants des éditeurs, notamment du Geste à l'époque, Philippe Janet, qui était responsable du Geste et qui travaillait aux Échos, a tout de suite compris l'enjeu et il a tenté à prendre contact avec les représentants de Google France pour négocier les conditions de reprise de contenu. Est-ce qu'on peut prendre les titres? Est-ce qu'on peut prendre les sous-titres? Est-ce qu'on peut prendre les photos? Est-ce que les éditeurs doivent être rémunérés? Comment l'hiérarchisation de tout ça s'est fait sur le portail? Comment est répartie l'audience? Donc il y avait plein de questions, sauf que les éditeurs français à l'époque n'ont pas trouvé d'interlocuteur en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les décisions stratégiques se prenaient directement à la Silicon Valley. Les représentants de Google en France étaient des commerciaux, on va dire. Et donc, il fallait négocier directement avec les gens aux États-Unis, ce qui a pris un certain temps. On est passé par différents stades, des menaces des procès, notamment de l'AFP. En 2007, il y a un événement très important, pareil, qui est un événement pionnier en France. C'est la décision de Google de rémunérer pour la première fois un éditeur pour ce contenu. C'était l'AFP et la Société de presse aux États-Unis. Donc ça, c'était comment dire, une rupture par rapport à la stratégie de Google jusqu'à là, qui disait moi je rémunère pas, je rémunère que en audience, on va dire, les sites d'information. Et donc ce modèle qui a été formé, on va dire, en France, en Europe, a été petit à petit diffusé de par le monde. Pour revenir sur votre question centrale, est-ce que la prime à l'originalité est toujours d'actualité? Alors ça, c'était une demande des éditeurs, sauf que petit à petit, ce qu'on a pu observer, ça a été, pas qu'en France d'ailleurs, dans le monde entier, ça a été une convergence, disons, d'intérêts entre les gros acteurs de l'Internet, Google mais aussi Facebook, et les gros éditeurs, donc notamment les éditeurs en provenance de la presse, au détriment de petits éditeurs. C'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, une négociation qui a consisté à définir des critères qui favorisaient les gros éditeurs.
Donc en gros, donc, un gros éditeur qui a pignon sur rue depuis plusieurs années, pour ne pas les citer, un Figaro, Le Monde, Libération, pèsera plus qu'un nouvel acteur, quand bien même ce nouvel acteur mettrait beaucoup d'argent et utiliserait tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de remonter sur Google Actualité. Il n'y parviendrait pas rapidement en tout cas.
Alors, s'il pourrait mettre beaucoup d'argent, il ne serait pas un petit acteur. Donc, ouais. Donc, ça veut dire qu'un petit acteur, il y a peu de moyens. Justement, nous, on a publié des articles scientifiques chiffrés. On a étudié la diversité des sources sur Google News. Parce qu'un des arguments de Google au début, c'était de dire, venez chez moi, vous taperez un mot-clé, puis vous allez avoir une grande diversité de sources, beaucoup plus grande que celle que vous allez trouver dans les médias traditionnels. Et effectivement, au début, Google News, c'était une source très, très variée. Il y avait des blogs, il y avait des sites indépendants, il y avait des pure players qui pouvaient arriver à la première page, qui pouvaient avoir de l'audience. Mais au fur et à mesure de toutes ces négociations que j'ai évoquées tout à l'heure, à force de convergence d'intérêts entre Google et les gros éditeurs, on a vu que finalement, les premières places du classement sont aujourd'hui, il suffit de faire le test avec n'importe quel mot d'actualité, sont trustées par un petit nombre d'éditeurs. Alors évidemment, Google répond que ce sont les meilleurs, mais c'est aussi une gestion politique, on va dire, de la chose, puisque en cédant ses places aux grands éditeurs, quelque part, Google est un peu plus tranquille et il définit, si vous voulez, des critères qui favorisent ces grands acteurs. Je prends un exemple. On sait qu'un des principaux critères de Google News pour hiérarchiser les sources, c'est le nombre d'articles produits. C'est-à-dire que le plus vous produisez d'articles, en tout cas le plus vous publiez d'articles, le plus vous êtes favorisé par Google. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de moyens, il faut avoir de grosses rédactions, il faut faire du bâtonnage de dépêches. Et là, c'est là où on arrive à des questions qui posent problème, puisque le bâtonnage de dépêches, évidemment, ce n'est pas du contenu original, ce n'est pas du reportage original. Donc c'est plus des critères quantitatifs qui sont aujourd'hui utilisés. Et ça a poussé, à partir d'un moment, à partir des années 2008-2009, ça a poussé les éditeurs à mettre en place de stratégies de tel type, c'est-à-dire des stratégies de productivité, où, en gros, ils recyclent des contenus qui proviennent des agences de presse, des relations presse, etc., pour produire beaucoup de contenu.
Alors, ce qui a changé maintenant, c'est que les éditeurs de presse cherchent à diversifier leurs sources de trafic. Donc, évidemment, il y a les moteurs de recherche, Google ayant maintenant quasiment un monopole sur ce domaine-là. Mais ils cherchent aussi à accroître leur trafic en provenance des réseaux sociaux, même si le trafic en provenance de Facebook a maintenant baissé. Ils cherchent aussi maintenant à multiplier et à développer leur notoriété de marque et leurs entrées direct, notamment en poussant un vieux modèle, mais qui revient à la mode, celui des newsletters.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un vieux modèle, comme vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'origine, les gens tapaient des URL d'éditeurs et ils allaient directement sur le site. Et c'est vrai que c'est un problème pour les éditeurs de toujours passer par des intermédiaires, à la fois parce qu'il y a une part de la valeur qui leur échappe, puisque évidemment l'intermédiaire il va vendre de la publicité et donc il va y recueillir déjà une partie de la valeur. Il va recueillir également aussi une partie des informations. Ça, c'est souvent un paramètre qui échappe à la discussion. Il ne s'agit pas juste d'argent, il s'agit aussi de données, puisque l'intermédiaire sait où va le public, quelles sont les sources privilégiées. D'ailleurs, l'une des raisons historiquement pour lesquels le fameux NetOne dont je parlais tout à l'heure a fermé au début des années 2000, c'était qu'ils proposaient en fait aux éditeurs concurrents de leur vendre des données des autres éditeurs, donc ce qui n'a pas plu aux éditeurs qui ont porté plainte, etc. Donc les données aussi, c'est un enjeu stratégique. Du coup, effectivement, les éditeurs, ceux qui ont le moyen, ceux qui peuvent, cherchent effectivement le plus possible, d'une part, à satisfaire les critères des intermédiaires pour bien se placer, et puis, d'autre part, dans la mesure du possible, de s'affranchir de ces intermédiaires pour éviter la perte de valeur, mais aussi la perte de données. Et l'un de ces moyens qui se développe aujourd'hui, effectivement, ce sont les newsletters. Après, bon, les newsletters, c'est un système très ancien qui pose aussi un certain nombre de problèmes parce que, bon, les boîtes mail sont saturées, l'offre aussi, elle est très, très importante et la concurrence pour l'attention des gens, elle est aussi très forte dans les boîtes mail, quoi.
Pour un éditeur de médias ou des journalistes qui nous écouteraient, quel est le conseil en gros? De leur dire ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et cherchez à avoir des sources de trafic venant d'un petit peu partout?
Alors absolument, moi je pense que je n'ai pas vraiment des conseils à donner puisque je ne fais pas de la stratégie, mais ce que je peux vous dire, basé sur les recherches que je lis ou que j'ai fait, c'est que un éditeur, parce que là je pense qu'on s'adresse à un public d'éditeurs, notamment des pays du Sud ou des éditeurs qui n'ont pas la puissance de grands groupes médiatiques, je pense que l'importance devrait porter sur effectivement l'originalité du contenu, l'originalité des angles, des sujets, plutôt que d'essayer de mal faire ce que font les très gros, c'est-à-dire du bâtonnage, de la productivité. On arrivera difficilement à concurrencer les très gros acteurs. Après, du point de vue du chercheur, effectivement, cette dépendance du journalisme envers l'industrie de l'Internet est un gros problème. Mais je peux comprendre que quand on est un petit éditeur, quand on est un petit média en ligne, en fait, on ne peut pas faire abstraction de ces acteurs. Donc, il faut peut-être... pour moi, en tout cas, travailler sur la qualité du contenu et également sur la proximité et le rapport avec les lecteurs, ce qui est aussi une autre dimension très importante qu'on trouve dans les recherches. Souvent, les lecteurs sont prêts à soutenir, y compris financièrement, un site indépendant quand ils adhèrent aux valeurs de ce site, même si ils ne les lisent pas. Par exemple, quand on regarde les abonnés des Mediapart, pour prendre un exemple français réussi, eh bien, beaucoup d'entre eux payent un abonnement, même s'ils n'ont pas le temps de lire les sites, parce qu'ils pensent qu'une voix de ce type doit exister dans l'espace public. Je pense que ça, c'est une direction stratégique que pourraient développer d'autres éditeurs dans d'autres pays.
Une petite question pas de côté pour ceux qui nous écoutent en podcast. Nikos Smirnaios, cette interview, nous la faisons par téléphone. Vous n'avez pas de smartphone, c'est une conviction, j'imagine. Expliquez-nous pourquoi.
Bon, écoutez, je n'ai jamais eu de smartphone, donc c'est beaucoup plus facile de ne pas en avoir un quand on n'a jamais eu. c'est beaucoup plus difficile quand on en a eu et on va s'en débarrasser. Mais oui, tout à fait, c'est un choix conscient pour plusieurs raisons. La première raison évidente, c'est que comme je travaille beaucoup sur la question des industries de l'Internet, sur les GAFAM, sur leur modèle économique, bon, j'ai été très vite conscience en fait du fait que le modèle d'exploitation des données des utilisateurs est un modèle dangereux à la fois pour la vie privée mais aussi pour la démocratie, et que en fait je me suis très vite rendu compte que si sur un ordinateur il y a un intermédiaire pour l'accès aux services qui s'appelle les navigateurs, il nous permet d'avoir un contrôle, même s'il est minimum des fois, mais quand même, sur les usages et sur les types de données qu'on partage, eh bien, sur les téléphones mobiles, à partir du moment où on installe des applications, enfin sur le smartphone, à partir du moment où on installe des applications, il n'y a plus cet intermédiaire qui nous donne un petit pouvoir. Et donc, les applications peuvent directement pomper tout un tas de choses directement sur notre smartphone qu'on ne veut pas partager. Donc je pense que, et ça c'est un conseil que je peux donner, la consultation de l'Internet depuis un ordinateur et via un navigateur sécurisé comme Brave ou comme Firefox est beaucoup plus safe, on va dire, hein, est beaucoup plus protectrice de notre vie privée que n'importe quel smartphone, même s'il existe aujourd'hui des smartphones sur open source, mais ils sont quand même très rares. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je passe déjà beaucoup de temps sur Internet. Je pense que c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs, donc devant un ordinateur. Donc, si j'avais un smartphone, étant donné le design de ces outils qui sont conçus pour attirer notre attention tout le temps, je sais que je passerai encore plus de temps, chose que je ne veux pas, puisque je vais aussi avoir une vie en dehors de l'Internet. Donc voilà, ça impose un certain nombre de petits problèmes de communication ou des liens, mais des fois, cet étonnement, comme là dans notre interview, cet étonnement que ça provoque que quelqu'un comme moi, qui est un peu spécialiste du numérique, n'a pas de smartphone, c'est aussi une entrée pour avoir cette discussion, ce débat avec des gens avec qui je donne mes arguments, et puis des fois, ça le fait réfléchir.
Merci beaucoup, Nikos Mirnaios.
Merci à vous.
L'atelier des médias.
C'est bientôt la fin de cette émission, comme chaque semaine, l'heure de Mondoblog Audio qui vous fait entendre les voix des centaines de blogueuses et blogueurs francophones de RFI. La journée mondiale de la paix, c'est le 21 septembre, mardi donc. Écoutons Matagali, blogueuse ivoirienne, nous expliquer comment, je cite, « elle arme ses neurones pour installer durablement la paix dans son quotidien ».
Il y a 25 ans, j'étais une enfant heureuse. J'étais libre d'aller et venir, je courais partout. Je jouais avec les autres enfants dans l'enceinte de mon école. On était joyeux, bruyants et insouciants. Le monde s'ouvrait à moi. Mon imaginaire et mes projets n'avaient pas de limites. J'étais de l'autre côté du miroir. Je vivais dans un pays en paix, mais je ne le savais pas. Tout a changé l'année de mon baccalauréat, l'année des armes et l'année des larmes en Côte d'Ivoire. Du haut de mes 17 ans, j'ai soudain réalisé que mes rêves prenaient le large. La Côte d'Ivoire venait de franchir la zone rouge. J'étais confinée à la maison entre frayeur et incertitude. Mes ambitions étaient circonscrites, tout est devenu plus petit, limité. Jamais plus je ne verrai les choses de la même manière. Je me suis promise de profiter de chaque minute de ma vie dès que la paix reviendrait. Mais la paix, elle a mis 10 ans à revenir, et même encore aujourd'hui. À nous qui n'avons pas perdu la vie, la guerre nous a volé nos rêves. Plus rien n'est pareil et jamais plus rien ne sera comme avant. La guerre a creusé un fossé. Les injustices d'hier ont ouvert la voie à des maux bien plus dangereux. L'extrémisme et le fanatisme s'installent, ici comme ailleurs. Nous n'arrivons plus à vivre ensemble. La paix nous échappe, elle court, elle glisse entre les mains. Pourquoi ? Simplement parce qu'à un moment donné, les adultes n'ont pas pensé que la paix se cultive et qu'elle s'apprend. La paix ne nous appartient pas et ne nous est pas due. Notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'adultes, c'est d'éduquer nos enfants dans le respect de la différence de l'autre. Aux futures générations, il faut parler de tolérance. Au lieu de cela, nous assistons à la perte de nos valeurs culturelles et à des bagarres fratricides. Éducation, justice, bonne gouvernance, solidarité, protection de l'enfance devraient faire partie de notre quotidien. Ce sont de précieux repères pour la paix et les fondations d'un monde vivable qui paraît si lointain aujourd'hui. Et si nous parlions de paix dans nos concessions, dans nos hameaux, dans nos villages? Et si nous parlions d'éducation à la paix dans nos écoles et dans nos médias? Et si nous parlions de paix autour d'un bon garba? Retenons bien ceci, la paix n'est pas un dû. La paix se cultive, la paix s'apprend.
La politique a gâté mon pays.
Une ode à la paix par Matagali, mondoblogueuse ivoirienne. C'est ainsi que se termine cette émission, réalisée avec soin par Simon de Creuse. Mondoblog Audio était sélectionné avec passion par Camille Deloche. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que cette émission est disponible sur toutes les plateformes et applications de podcast, et ce, avant même sa diffusion à la radio. Vous pouvez vous y abonner gratuitement sur Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'application Radio France. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.